Donc, nous sommes en entrevue avec Claude Généreux, secrétaire trésorier national du SCFP. Claude, bonjour.
Salut Pierre.
Donc, Claude, tu nous quittes, tu quittes très bientôt tes fonctions comme secrétaire trésorier national. En regardant vers l'avenir, quels sont, selon toi, les grands défis auxquels le SCFP doit se préparer?
Bien, ce sont des grands défis. Cette question-là, Pierre, je la comprends comme des grands défis que, comme syndicat, nous avons à partager avec la population en général. Des défis qui existent pour nous tous et nous toutes. Pour parler de l'avenir, je pense qu'il faudrait que je parle du présent aussi, puis cet été. C'est un peu, quand tu me poses cette question-là, je suis inspiré par ce qui est arrivé cet été. Des fois que ça a été sur le radar de l'attention du public et parfois c'est passé inaperçu. Par exemple, cet été, malheureusement, on a eu deux grèves qui n'ont pas vu le triomphe du syndicalisme, qui n'ont pas vu le triomphe des organisations de travailleurs et de travailleuses, qui n'ont pas vu les travailleurs et les travailleuses bénéficier de droits démocratiques dans la société puis faire valoir leurs droits. Là, je parle des travailleurs canadiens de l'automobile ont des membres qui travaillent à Air Canada, des manutentionnaires, des bagagistes, des agents au ticket, à la billetterie. Écoutez, c'est du travail important, mais ce n'est pas du travail essentiel au point où l'avion va tomber du ciel s'ils sont en grève. Alors, même ça, on a argué des problèmes incroyables qui paralyseraient l'industrie et juste même l'économie canadienne pour menacer d'une loi spéciale. Puis là, écoutez, j'hésite un peu la façon dont j'aborde la question parce que il n'y a pas eu de loi spéciale. Mais il y a eu l'outil de la loi, la menace de la loi spéciale dans un délai de 48 heures s'il n'y avait pas de règlement. Alors, c'est drôle que la ministre du Travail, qui veut tout le temps être neutre, était curieusement neutre, mais en penchant du bord de Air Canada, qui était finalement sa compagnie à elle, parce que l'actionnaire de contrôle d'Air Canada, c'est le gouvernement du Canada. C'est celui qui reçoit pas mal de dividendes, même si c'est une compagnie privée. Surtout que la Société canadienne des poches, je pourrais dire la même chose, en fait, et encore plus, qui est l'autre grève qui est intervenue. On riait du syndicat et des travailleurs et des travailleuses. Il y avait des caricatures de toutes sortes, de toute nature, parce qu'on disait que la grève n'était pas efficace. Ah, là, tout d'un coup, elle devient efficace. On justifie efficace parce qu'elle crée des inconvénients. Bien sûr, une grève, ça va créer des inconvénients. Il n'y a personne qui fait la grève par plaisir et pensant qu'elle est complètement futile. Mais on ne veut pas non plus qu'elle paralyse et qu'elle fasse mal à l'économie et aux citoyens du pays, puis aux citoyens du pays à un point tel que ça serait irréparable. Mais c'est une grève qui commence à avoir un certain effet, point à la ligne. Il est arrivé une loi spéciale. Alors pourquoi je mentionne ça? Ta question était les défis de l'avenir. Mais les défis de l'avenir, ils s'enracinent dans ce qu'on vit présentement et ce qu'on a vécu dans le passé aussi. Donc je parle de cet été, puis je parle du passé parce que cet été, lorsqu'on a eu ces deux conflits-là, ça n'a pas été la joie, le bonheur, l'allégresse, puis les règlements n'ont pas reflété un équilibre dans les rapports de force, dans l'exercice de nos rapports de force, dans le cadre des droits démocratiques qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on pense qu'on a puis qu'on n'a plus, comme le droit de grève. Ça, c'est arrivé, mais en même temps, cet été, ce qui est arrivé, c'était le 30e anniversaire d'une lutte qui a fini par être une boucherie, un carnage. Puis là, je fais référence à la lutte des contrôleurs aériens américains, qui en 1981 ont fait la grève. Et Ronald Reagan, pas tout à fait nouveau président, mais président bien en selle à ce moment-là, puis pour montrer qu'il était pour mater les travailleurs et les travailleuses, comme Thatcher avait commencé à le faire à ce moment-là, au tournant de cette décennie-là, a écrasé ce syndicat-là, a mis à pied des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses, a fait venir l'armée, les ingénieurs de l'armée, puis les professionnels de l'armée pour prendre en charge le contrôle du trafic aérien. Et je ne dirais pas qu'il n'y a pas un petit doigt qui s'est levé, mais il n'y a pas eu une grande résistance à travers les travailleurs et les travailleuses, les organisations syndicales à l'époque. C'est bien malheureux. Mais ça fait 30 ans cet été. Et on n'en a pas parlé bien, bien. Je pensais qu'aux États-Unis, on en parlait un petit peu plus avec les batailles héroïques qui se sont menées cette année, qui sont un peu le prolongement des batailles de Reagan contre les travailleurs et les travailleuses, 30 ans plus tard, avec le Tea Party, avec la même approche que Reagan, la même approche idéologique et politique. On ne devrait pas avoir de droits syndicaux. C'est mauvais pour l'économie, supposément. Il faut couper les impôts. Il faut déréglementer. C'est la loi de la jungle. C'est ce que le Tea Party a fait, c'est ce que les nouveaux élus du Tea Party dans des États ont fait, notamment au Wisconsin. On oublie déjà que le Wisconsin, c'est arrivé en 2011. Donc, je m'écarte, oui et non, de la question de base qui était quels sont les défis de l'avenir? On les voit déjà pour nous ici au Québec, au Canada, partout. On les voit, les défis de l'avenir. Ils se présentent déjà à nous. 30 ans de défaites. On a beaucoup de victoires, mais on a parfois des défaites. 30 ans à célébrer, au moins à retenir les leçons, à prendre des leçons d'une défaite amère. Parce que dans les années 80, lorsque ça s'est survenu, c'était le début d'une grande chute, une grande spirale vers le bas du mouvement syndical américain, du déclin du mouvement syndical américain, jusqu'à une certaine résurgence cette année, justement, à cause des attaques du Tea Party puis des Républicains. Et ce déclin-là, on l'a vu notamment en termes de chiffres. Le syndicalisme américain, on pouvait le chiffrer à 30% des travailleurs et des travailleuses américains et américaines, ben, ils étaient syndiqués à l'époque. Aujourd'hui, c'est 10%. J'arrondis là, pour les besoins de notre conversation. Quelle descente de 30% à 10%? 10%, ça veut dire, c'est une marge. Ça veut dire que la marge des travailleurs seulement est syndiquée. Dans son ensemble, ils ne sont pas syndiqués. Ils n'ont pas de force collective. C'est difficile de se battre en désordre comme ça, en rang désordonné, en étant à la merci de nos employeurs. C'est ce qu'on vit maintenant au bout de 30 ans. Le Canada, à ce moment-là, a commencé à vivre ça, avec le libre-échange puis une déréglementation, parce que là, 30 ans, c'était ça, là, presque 30 ans, c'était Mulroney qui arrive au pouvoir, les conservateurs qui prenaient le parti, qui ont commencé à parler de déréglementation, de libre-échange. Et notre mouvement syndical, ben, on a vu une décroissance relativement beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, mais on est passé de 35% quand même à 30%. Donc, je vois un peu comme un pattern qu'on suit une génération plus tard. Alors, si vous me suivez, si voilà une génération, le mouvement syndical américain a mangé une sacrée dégelée, sommes-nous sur le point d'en manger une? Je ne nous le souhaite pas. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais justement, je veux nous rappeler cela parce qu'il est temps de se retrousser les manches pour y faire face, parce que ça s'en vient. Cet été, encore une fois, je reste dans l'été. J'ai vu un barbecue assez révélateur de Rob Ford, le nouveau maire de Toronto, avec la présence de Harper. Et qu'est-ce que ces deux-là se souhaitaient? Qu'il y ait un continuum conservateur à travers tout le pays. Et notamment en Ontario, il se disait qu'il va y avoir des élections cet automne. Souhaitons-nous l'arrivée de Hudak, qui est le chef du Parti conservateur en Ontario. Alors, il y aura un continuum dans tous les ordres du gouvernement au Canada, au municipal, au provincial, puis au fédéral, avec des majorités claires de partis conservateurs. Aïe, je dis, quand vous me posez la question. Alors, si on ne fait rien, je vais être obligé de dire qu'est-ce que je vois dans l'avenir. Aïe, pour les travailleurs, mais aussi la population en général, là. Parti conservateur, il n'est toujours pas question de baisse d'impôts. C'est-à-dire, il n'est toujours pas question de... Je reviens sur la fiscalité et des débats qu'on a eu au printemps. C'est tout disparu, ça, là. Il n'est pas question de baisse... on va monter les taxes, on va monter les impôts des particuliers, mais on continue à baisser les impôts des compagnies. Il se passe la même chose aux États-Unis. Cet été, c'est le gros débat. Il y a un parallélisme qui est incroyable. À chaque fois qu'on prend une question à bras-le-corps, il y a un parallélisme entre les États-Unis et le Canada. Warren Buffett, le Robin des Bois, maintenant, c'est quand même incroyable, il faut le faire. Warren Buffett nous déclare « Taxez-moi plus, ça ne me dérangera pas. » C'est pas parce que c'est un saint, c'est parce que c'est vrai quand il dit ça. Warren Buffett, c'est une fortune de 50 milliards. Il nous dit « Mes revenus imposables sont de 40 millions cette année. » Que sont 40 millions à 50 milliards? 0.1 de 1%. Alors, ça le chatouille. Si vous me... Il dit, écoutez, vous pouvez m'imposer à 35% plutôt que 17%. Doubler mes impôts, bien sûr, parce que ça va être juste un plus gros chatouillement. Si on me chatouille à 35% sur mes 40 millions plutôt que 17% sur mes 40 millions, ma fortune est à 50 milliards. C'est pas une douleur, là. Moi, si on me chatouille à 35% sur 40 000, qui est le revenu moyen d'un travailleur à temps plein au Canada, ça veut dire qu'on m'enlève 15 000-16 000 $, là, puis ma fortune tient à peu près à 300 000 parce que j'ai, avec mon hypothèque que je paye, j'ai une part d'équité sur la maison, ma fortune vaut 300 000 avec ma caisse de retraite, ce que j'ai payé en date, 300 000 $, puis je paye 17% sur mon... je paye 35% sur mon 40 000, je viens de payer 15 000-16 000. par année. C'est comme si je payais 50 fois plus que Buffett. Ah, Buffett, Warren Buffett nous a dit ça. C'était une nouvelle d'une journée, là. Ah, en anglais, ils disent « one day wonder » dans les médias. Ça n'a pas été relevé là, par les mandarins de l'information. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. La nouvelle est partie. Et pourtant, qu'il y en aurait de la nouvelle à dire, là, à faire là-dessus. Deux, trois grands milliardaires nous disent, les Zuckerberg là, de Facebook, nous disent oh, « vous pouvez nous hypothéquer un petit peu plus, Bill Gates, vous pouvez pas nous hypothéquer, mais nous taxer un petit peu plus. » Mais ça nous dit quelque chose quand 3 des 10 personnes les plus riches au monde nous disent « vous pouvez nous taxer un petit peu plus », puis c'est même pas relevé, la nouvelle n'a pas de vie, elle ne vit même pas une deuxième journée, les gens choisissent de se taire, comme ça va partir, ça va s'en aller, comme une nouvelle de l'été qui est morte, comme parfois ça arrive dans l'été. C'est révélateur de la hauteur de la marche qu'on a à prendre pour nous défendre. Et au printemps, je pensais qu'il y avait une belle bataille qui s'en venait sur la fiscalité, qu'on gagnerait quelques points, qu'on rétablirait une fiscalité où on ferait en sorte qu'on paye notre juste part, tout le monde, pour qu'on ait le bon service public. Mais ça n'a pas l'air à s'en aller dans cette direction-là. Je ne dis pas, encore une fois, je ne crie pas défaite, mais genre, je suis loin de pouvoir crier victoire. Donc, votre question, vous l'avez une dizaine de minutes presque déjà, quels sont les défis de l'avenir? Je n'ai pas vraiment parlé de l'avenir encore. J'ai dit d'un premier temps, les contrôleurs aériens, on a célébré tristement une défaite. Puis nous-mêmes ici, on vient de vivre deux conflits syndicaux d'importance où ce n'était pas la joie et l'allégresse. Pendant ce temps-là, je vous disais, il y a une déréglementation qui a commencé il y a une trentaine d'années, il y a à peu près 25 ans au Canada, on a pu l'avoir, déréglementation commerciale, financière. Puis on a vu comment tout ça a mené à la création d'une hyper-réalité financière. Je ne dirais pas une immatérialité, mais une hyper-réalité financière qui maintenant commande la réalité dans laquelle on vit de tous les jours, dans l'économie réelle. Puis là, c'est la spéculation, la fameuse spéculation, parce que depuis ce temps, on a tellement déréglementé financièrement qu'on a eu des bulles en technologie, on a eu notre bulle immobilière en 2008, et maintenant, notre réalité est frappée par cette irréalité de la spéculation. Encore ce mois-ci, on a eu, à cause de l'ingénierie financière, on a eu une crise dans la vraie économie parce qu'on n'a pas assez d'ingénieurs dans la vraie vie, mais on a des ingénieurs financiers. C'est ce qu'on a créé depuis 30 ans. Des ingénieurs financiers qui font que les ponts tombent parce qu'on n'a pas d'ingénieurs dans la vraie vie, des ingénieurs civils qui ont créé plus de bons ponts, ou si on en quand on en fait. Donc, il y a une réalité à recentrer qui ne devrait pas être commandée par l'hyper-réalité financière, les spéculateurs. Écoutez, même la valeur des actions aujourd'hui n'est plus en lien, comme ça a toujours été depuis des centaines d'années. Les valeurs, je le répète, des actions n'est plus centrées, basées sur la réalité économique, par exemple sur le PIB, le produit intérieur brut d'une région donnée, d'un pays donné, d'un continent donné. Mais non, c'est détaché de ça. C'est basé sur le risque et la spéculation pure. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ce sont nos défis que nous avons dans l'avenir immédiat, mais que nous vivons maintenant. Puis je faisais une farce tantôt là, à propos des ingénieurs financiers. Mais déjà au 18e siècle, Isaac Newton nous mettant en garde, il disait, écoutez, il faut construire plus de ponts plutôt que construire des murs. On construit trop de murs, pas assez de ponts. C'est drôle, mais Newton ne savait pas que je penserais à lui aujourd'hui en 2011, mais je pense que c'est bon pour 2021 puis 2041. C'est incroyable comment on est en train de créer, laisser faire les robots, cette hyper-réalité financière-là prend le dessus sur notre vraie réalité, puis elle change notre réalité, pas pour le mieux, pas pour le mieux. Donc ça crée une bataille à faire pour nous, les citoyens et les citoyennes, qu'on voit dans la rue, qu'on a vu cet été en Angleterre, pour les travailleurs aussi. The Economist en Angleterre a ouvert l'année 2011 en disant que la bataille à venir sera la bataille contre les syndicats. Parce que, comme gouvernement, on avait pris toute la dette privée que les spéculateurs avaient accumulée avec la crise de 2008. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On a une dette publique. Et là, c'est la crise des budgets. On n'en entend parler que de ça. Crise budgétaire, crise de l'euro, crise souveraine des pays souverains comme la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie maintenant. Crise de la dette américaine. Est-ce vraiment une crise? Est-ce que c'est un problème? Ben oui, mais est-ce que c'est un problème de nouveau d'une crise? Non. Parce qu'on spécule. Et cette spéculation-là crée des variations incroyables. Quand sur 3 jours, 12% de l'économie bascule, 12% de l'économie en 3 jours, c'est pas vrai que les machines ont détruit 12% de ce qu'il y avait généré avec les travailleurs. C'est encore une fois cette hyper-réalité-là de la spéculation. Nous, là, dans la vraie vie, les citoyens et les travailleurs, il va falloir qu'on y regarde et qu'on y voit. C'est une bataille à faire. À faire dès maintenant. Je voudrais finir sur cette grande question-là. C'est une grande question que j'ai parlé peut-être déjà trop longtemps, mais je voulais finir au moins à parler avec l'eau et le climat, mais fermer le bouchon sur toute cette question-là spéculative. Vous savez, je m'adresse à vous en français aujourd'hui, puis on va traduire cet article-là aussi en anglais pour tous nos membres à travers le Canada, qu'ils soient francophones et anglophones. Mais au Québec, on sait avec Victor Hugo que Victor Hugo, quand il avait écrit au 19e siècle Les Misérables, qu'est-ce qu'on retenait des Misérables? C'est que Jean Valjean avait été en prison à vie parce qu'il avait volé du pain. Alors, je ne parlerai pas des Misérables parce que c'est plus une comédie musicale à Broadway maintenant que le vrai message d'origine. Mais Schiller, donc ni francophone ni anglophone, Schiller avait déjà dit à l'époque que les criminels sont des criminels ceux qui volent des bourses, des sacoches. Ils sont audacieux ceux qui volent des fortunes. C'est une marque de grandeur lorsqu'ils volent une couronne. Mais là, il parle de la royauté. Au moment où Schiller écrit, il y a beaucoup plus encore de monarques que de démocratie. Mais il nous conclut en disant que le blâme diminue à mesure que grandit la culpabilité. Mais c'est drôle, tantôt je parlais de Newton, ça, c'est 18e siècle. Schiller, ça fait longtemps aussi, mais ce qu'il dit, c'est tout à fait d'actualité. C'est tout à fait d'actualité, les Madoff et compagnie. Ils commencent à se faire prendre, là. Ils commencent à peine, les crimes de col blanc commencent à maintenant être sur le radar, puis à nous en occuper. Parce que ça pervertit notre économie. Et après, on a des problèmes qui sont socialisés, puis on nous dit on va attaquer, l'État prend en charge tous ces déboires-là. Ça crée un problème financier, un problème de compte et de dépenses, de déséquilibre entre les dépenses et les revenus. Puis on nous dit, bon, on a la solution, on va attaquer les travailleurs qui travaillent pour l'État. On va couper le poste ou on va couper le salaire ou la combinaison des deux. C'est nos défis qu'on a présentement. Alors, quand je parlais de libre-échange, les défis qu'on a présentement dans l'avenir, le libre-échange, j'arrêterai de parler de l'ALENA, de là 25 ans. C'est parce que je l'ai mentionné tantôt, l'ALENA, parce qu'on nous faisait des belles promesses. Puis souvent, on oublie de retourner dans le passé pour voir si les promesses se sont matérialisées. Non, mais le libre-échange, hein, ça ne s'est pas matérialisé, ça. Au Mexique, qui est quand même un pays autour de 100 millions, j'arrondis, de 100 millions d'habitants. Je parlais de Schiller, là, puis je parlais de l'ingénierie financière, puis la concentration de la richesse. Mais la richesse, ça s'est créée, mais ça s'est pas distribué. Il y a 10 Mexicains. 10 Mexicains ont à eux seuls 10% de la richesse du pays au Mexique. 10 personnes. C'est quelque chose, là, quand on parle de cette concentration. On retourne au Moyen-Âge, c'est pour ça que je vous cite Schiller et Newton. Là. On retourne au Moyen-Âge. Ce qui est féodal, là, c'est pas d'avoir les terres, c'est d'avoir l'économie. Ce qui est encore plus large que d'avoir des terres, puis de prélever un cens, une portion de votre récolte de blé d'Inde, hein, de maïs ou de blé. On a l'économie, elle nous appartient. Alors, ça ne va pas dans la bonne direction. On continue à pousser dans le libre-échange. On a eu des victoires au niveau global. Il y avait une globalisation, on a eu des victoires, mais une nouvelle stratégie. On a maintenant nos gouvernements, ils vont bilatéralement, de pays à pays, ou même avec des continents comme l'Europe. Mais en Colombie, ils célébraient cet été un beau traité de libre-échange. C'est un pays où on continue à tuer des travailleurs pour nous dire, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est ce que Harper nous dit. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes. Quel euphémisme. On tue des travailleurs, là. Et on a un traité de libre-échange, puis on va y mettre des amendes dans un petit panier, là. C'est comme si chez vous, s'il y a un juron qui est proféré, on dit, mets 25 sous dans le panier, ou si tu fumes une cigarette, mets 1 $ dans le panier. Là, on tue quelqu'un, on va mettre 1 $ dans le panier, qui est commun, qui va vous retourner. Anyway. C'est incroyable. Puis on pousse avec l'Europe, puis on va avoir peut-être un traité de libre-échange où je ne vois pas ce qu'on va gagner. On va y gagner comme citoyen et citoyenne, puisqu'on va y gagner comme travailleur et travailleuse. Jamais on nous dit qu'on va avoir plus de services publics, là. On nous dit non, on va laisser des transnationales peut-être acheter nos services publics. Alors, présentement, Société des Postes, ça marche. n'y aura pas une meilleure société des postes, mais elle va appartenir à quelqu'un. Je ne sais pas c'est quoi le gain pour le travailleur ou la travailleuse des postes qui vient d'avoir une grève, là. Je ne sais pas c'est quoi c'est le gain pour la personne qui reçoit la lettre qui est livrée, le colis qui est livré. Rien ne va changer. Mais quelque chose va changer profondément. Ça ne nous appartiendra plus si on laisse aller les choses. Alors donc, une action politique à mener qui est importante pour pousser les politiciens et les politiciennes à se présenter sur leur vrai jour. On disait dans le passé au SFP que les gouvernements n'ont jamais réussi à se faire élire au Canada lorsqu'ils se présentaient sur leur vraie plateforme. Ils se présentent sur une plateforme, puis après ils font autre chose. Et après ils privatisent. Ils disent non, non, on va supporter les services publics qui sont dispensés à la population, mais une fois au pouvoir, bien, ils les détruisent. On vient de voir quelque chose. J'ai de l'espoir, là, même si ça a l'air noir ce que je dis, j'ai de l'espoir parce que la mi-juin, en Italie, là aussi c'était une histoire qui était une journée et demie, pas plus que 2 jours, du moins en Amérique du Nord. En Italie, Berlusconi a tenté le tout pour le tout, et pour une fois, il a été honnête, parce qu'il était à sa défensive. Il a demandé aux Italiens et aux Italiennes d'adhérer avec lui à une plateforme où on privatiserait l'eau, et il s'est fait dire à 96% non. Alors, on a une tâche incroyable, faire sortir de leur cachette les privatiseurs, les Rob Ford, les Harper, les Houdak de ce monde. Sinon, le Canada va changer irrémédiablement. C'est pour ça que j'essaie de me tourner vers l'avenir, mais pour pas qu'on se retrouve dans 30 ans avec un Canada qui va avoir complètement changé, il faut dès maintenant regarder les défis d'aujourd'hui, puis les prendre à bras le corps pour maintenir ce Canada-là, pas juste le maintenir, l'améliorer. Alors, j'ai parlé pas mal juste d'économie et de politique, mais... Je parlais d'eau tantôt, je voulais parler du climat. Je terminerai là-dessus. C'est incroyable. La justice sociale, la justice économique, c'est aussi de faire en sorte de ne pas détruire notre planète. Là. J'essaie de le dire de la façon la plus simple possible, la moins catastrophique possible, mais je ne trouve pas de manière plus simple que de le dire ainsi. C'est incroyable aujourd'hui de ne pas parler du changement climatique induit par l'activité humaine. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est pas là. Ça n'existe pas. On s'en parle aujourd'hui. D'ailleurs, on a un bel été. Il y a un orage électrique présentement. Regardez si le changement climatique n'a pas cours, regardez l'été qu'il y a eu aux États-Unis. On a dit non, non, non. Il continue à avoir des hivers pendant que la calotte glaciaire est en train de fondre et que ça accélère cette fonte-là et ce réchauffement-là. On croit tellement dans nos capacités humaines à se jouer de la nature qu'on pense qu'on va mettre, je parlais d'ingénierie tantôt, là, on commence à mettre sur papier toutes sortes de plans qui relèvent de la science-fiction présentement. On va aller dans l'espace, on va créer des miroirs géants qui vont défléchir. C'est incroyable, au lieu de mettre l'argent et les ressources à créer une économie de transition, qui va être une économie verte, qui va faire attention justement à la nature, mais qui va faire attention aussi aux travailleurs et aux travailleuses. C'est comme si les gouvernements et les capitalistes croyaient qu'ils pouvaient négocier avec la nature. Nous, on est des syndicalistes, mais on sait qu'on ne peut pas négocier avec la nature. Je pense qu'on est des bons négociateurs, mais on ne veut pas négocier avec la nature. On se base sur la science humaine, puis on reconnaît qu'il y a des changements climatiques qui sont causés par nous, puis qu'il faut y voir. Et ça, c'est incroyable qu'on laisse aller Harper, qui a établi des cibles en 2007 pour 2017, en croyant que, là aussi, on y verrait que du feu. On arrive à la fin de 2011, il y a des gens qui commencent à mesurer l'effet de ces cibles de 2007 pour voir si on s'en va dans la bonne direction. On n'est pas en retard. Non seulement ne sommes-nous pas en retard, on est dans une situation qui est pire qu'en 2007. Puis Harper, en 2017, si vous lui demandez, je ne pense pas qu'il va... Je pense pas que c'est dans son plan de carrière d'être encore là. C'est beau la vie là, de premier ministre, là, mais ça use. Puis je pense pas qu'il croit qu'il sera encore au pouvoir. Donc c'est bon de mettre une cible pour 2017, parce qu'elle ne veut rien dire politiquement. Elle ne veut rien dire. Mais socialement, physiquement, dans la vraie vie, là, c'est incroyable, c'est catastrophique, c'est criminel de mettre de telles cibles, de ne faire aucune action, ou au contraire, de mener des actions qui sont contraires. Il accepte encore de laisser se construire, au moment où on se parle, des centrales thermiques qui sont générées par du charbon. Donc, c'est pas vrai qu'il prend des actions pour que le changement climatique soit reconnu et que des actions pour mitiger ça d'un premier temps puis changer ça d'un deuxième temps surviennent. Donc, on continue à creuser notre trou dans lequel on s'enfonce. Encore là, j'ai l'air d'avoir juste des idées noires puis d'être négatif. Non, je me prends la mesure de nos gouvernements puis des compagnies qu'ils appuient, puis ils ne sont pas nos amis, ils ne sont pas là pour notre bien-être, et c'est une grande tâche qu'on a là. Et une grande tâche, je pense que les syndicats, les travailleurs, les organisations avec lesquelles on a travaillé, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et il va falloir qu'on fasse un peu plus de travail que juste du lobbying et assister à des grandes foires internationales. Toi et moi, sommes deux personnes d'ailleurs qui avons assisté pour notre syndicat à des grandes rencontres, des forums justement internationaux sous les auspices des Nations Unies. Mais il y a il y a comme un divorce complet entre le discours et ces rencontres-là et ces foires-là et ce qui se passe par la suite. Et ça, le climat, tu as une jeune famille que tu es en train d'élever, j'ai des enfants qui arrivent à l'âge adulte, on a quelques générations qui suivent et on a toutes le même destin si on n'y voit pas à ce changement climatique-là que nous avons créé. On ne peut plus plaider l'ignorance. On ne peut plus dire c'est le party puis on laissera à d'autres parce qu'il pourrait avoir des effets délétères irréversibles. Alors c'est une question tout à fait importante et je pense qu'on doit prendre ça à bras le corps. Je pense qu'au SFP, on a pris beaucoup d'actions pour montrer qu'on était sérieux, qu'on prêchait par l'exemple, dans la mesure où il nous est donné de le faire, parce que nous, on n'est pas une grande compagnie transnationale qui produit des tonnes et des mégatonnes de gaz à effet de serre. Mais dans la mesure où on le peut, notre congrès, par exemple, qui va rassembler 2 500 personnes, va être presque absolument carboneutre. C'est possible de le faire. Puis ça va coûter quelques 50 000 $ de plus qu'un congrès normal. Je dis par là normal, avec la même empreinte de carbone habituelle. Là, pour prendre action, ça va nous coûter presque rien. Alors, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Non seulement ça va nous coûter presque rien, au total, je pense qu'on y regagne. Parce qu'on continue à détruire nos ressources naturelles ou à les utiliser d'une façon telle que si on calculait notre produit intérieur brut d'une autre manière, là, si on regardait l'économie d'une autre manière que de la façon qu'on la regarde, on se rendrait compte que faire attention à nos ressources naturelles, ça aurait beaucoup de valeur. Hein, j'ai cité tantôt Newton, j'ai cité Schiller, mais il y a Einstein à un moment donné qui nous disait tout ce qui compte n'a pas toujours de valeur. Et ce qui a de la valeur, parfois, c'est difficile de le compter. Je le cite là parce que par rapport à la nature, c'est un peu ça. Regardez nos forêts boréales, elles valent 15 puis 20 fois plus cher que lorsqu'il y a une déprédation de ces forêts boréales-là par l'industrie qui, inconsidérément, font des coupes à blanc. Elle vaut plus cher. Mais de la façon, encore une fois, où on calcule notre économie puis notre produit intérieur brut, on préfère détruire notre forêt puis inconsidérément, puis nuire au climat, puis nuire à des écosystèmes, puis nuire à des communautés autochtones et tutti quanti. Si on regardait ça d'une autre manière, je pense qu'on se rendrait compte que ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur pour le présent, ça a beaucoup de valeur pour l'avenir. Mais là, il faudrait qu'on soit d'accord, il faudrait que tout le monde soit d'accord avec Einstein, qu'il y a des affaires qui ne se comptent pas puis qui ont de la valeur. Puis qu'il y a des affaires qui, supposément, ont de la valeur puis qui se comptent, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais là, je deviens bien philosophique parce que c'est une entrevue, ça devrait être un article qui se condense en quelques colonnes. Et là, je m'étends dans toutes les directions parce que ce sont des défis de l'avenir. Ils sont grands, ils sont vastes. Je m'arrêterai à ça dans un premier temps. Quels sont les défis de l'avenir? Bonne chance pour ramasser tout ça. Mais ça, c'est un grand défi. Il nous appartient comme travailleurs, comme citoyens, citoyennes. Je pense que c'est celui qui est le plus sous-estimé en date. On pense qu'au tournant de la rue, à un moment donné, telle année, on va s'arrêter, on va régler ça en 3 semaines. Il faut prendre des actions de maintenant.
Tu as parlé de beaucoup de défis. Comme je disais, là, tu quittes bientôt ton poste comme secrétaire trésorier national du SCFP. Qu'est-ce que tu aurais à dire au mouvement syndical en général? Est-ce qu'il y aurait autre chose que, stratégiquement, tu penses que... d'autres défis et comment s'y attaquer. Là. Si tu as la chance de donner un message, dans le fond, au mouvement syndical assez large, dans le contexte canadien, mais aussi ailleurs, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses que tu penses essentielles à mentionner?
Oui, absolument. J'aurais pas à répéter ce que j'ai dit tantôt en long et en large, donc je vais essayer de me ramasser. On s'en va d'un congrès, d'ailleurs, comme tu me dis, je ne me représente pas. Je pense qu'à chaque personne suffit sa peine, suffit sa tâche. Laissons à d'autres le soin justement de rebrasser ça et de diriger, et puis de mener ça avec d'autres personnes. Ce que je vais laisser, moi je suis bien satisfait. Je pense que je nous ai amenés avec d'autres, avec le concours de tellement d'autres centaines de personnes aussi, à un endroit qui est meilleur pour nous battre. Mais il est clair avec ce qui est arrivé cet été qu'il faut qu'on. Avec les jeunes dans les rues en Angleterre, il y a 20% de chômage. Les jeunes n'étudient même plus. C'est 20% de désespoir qu'ils ont perdu espoir. On parle plus juste des jeunes, par exemple, afro-américains aux États-Unis. On parle plus d'aborigènes ici au Canada. C'est partout, là. Cette richesse-là que nous créons ne nous parvient pas, ne se rend pas jusqu'à nous puis dans nos voisinages. Il y a un sacré problème. Il faut donc, d'un premier temps, au moins, apprendre à mieux communiquer, à ne pas répéter les vieilles mêmes sornettes qui apparaissent comme des sornettes pour des gens, à communiquer différemment et à conséquemment à s'organiser différemment. Vous savez, je reviens à l'Angleterre, là, puis les émeutes récentes. Bien sûr que c'était pas élégant, puis tuer des gens, puis mettre en feu des petits commerces, puis des usines, c'est pas nécessaire. C'est peut-être se tirer dans le pied, Le gouvernement conservateur s'en sert autrement, là, pour faire peur aux gens. Vous voyez les sauvages, puis on va sévir, mais il ne règle pas le problème qui a généré cette violence-là, ce désespoir-là. Mais il faut reprendre l'initiative, puis apprendre à communiquer. Là, je vais vous parler d'un vieux russe, là, puis c'est pas populaire de le nommer, parce que là, on parle de communiste, là, puis on traite de communiste. Encore, c'est les chroniqueurs. Au Québec et au Canada, aiment bien ça, nous traiter de communistes. Encore cette semaine, il y avait un Éric Duhaime au Journal de Québec qui parlait de parti communiste, puis des responsabilités des travailleurs. Et ils croquent du syndicat à tous les matins. C'est les mêmes Marie-Madeleine qui pleurent ils n'ont pas de place pour parler, mais c'est rien qu'eux autres qu'on peut lire. Mais j'arrête de me plaindre à mon tour. Il faut qu'on communique. Pourquoi je parlais de ça? C'est que Lénine est un peu celui qui avait théorisé pour les syndicats. Et les partis communistes du tournant du 20e siècle. Ils nous disaient, vous savez, les syndicats sont forts parce qu'il y a des grandes usines. Tout le monde travaille, un à côté de l'autre, des milliers de personnes. Puis la communication est facile parce qu'on travaille côte à côte dans la même usine, de 9 à 9, pas nécessairement de 9 à 5 à l'époque, 5 puis 6 jours par semaine. On peut se parler. Aujourd'hui, c'est tellement fragmenté. On n'a plus la même organisation. On travaille, on est délocalisé. Du travail à domicile, les soins à domicile, par exemple, dans la santé, on ne se voit plus, on ne se côtoie plus, les travailleurs et les travailleuses, de la même manière. Je ne dis pas qu'on ne se côtoie plus, mais plus de la même manière. Alors, on a tout un défi d'organisation et de communication, là. Il faut reprendre l'initiative à ce niveau-là. Voilà une dizaine d'années, on s'était établi trois priorités, pas 12, trois priorités. On se disait qu'on devait mieux négocier, ramener de meilleurs résultats pour nos travailleurs. S'enfoncer dans la pauvreté, se développer des régimes de retraite, aller représenter mieux certains secteurs de nos membres, par exemple, justement, dans le travail à domicile, les soins à domicile, dans les soins de longue durée, qui sont des secteurs où il y a plus de femmes, des femmes immigrantes, qui sont plus vulnérables. On voulait se solidariser de celles-ci. Je pense qu'on aurait pu obtenir de meilleurs résultats. Nous en avons obtenu, mais on aurait pu faire mieux. Et pour l'avenir, il faut encore faire mieux et se commettre de faire mieux. C'est comme ça qu'on va renforcer nos syndicats en allant ailleurs où nous ne sommes pas assez présents. Il faut donc communiquer, il faut s'organiser autrement. Il faudra continuer à se battre contre la privatisation, nous, comme syndicats de secteur public, mais le faire aussi avec des syndicats qui sont dans le secteur privé, qui comprennent ça, qui deviennent nos champions des services publics. Travailleurs canadiens de l'automobile, d'ailleurs, ils disent à leurs membres, ben, écoutez, aux États-Unis, s'il n'y a pas de services de santé public, bien, on va en avoir un privé, négocier avec notre employeur. Si on réussit à l'arracher, on va en perdre d'ailleurs, notamment sur le salaire. Il y a quelque chose qui, en anglais, hein, ils disent « something's gotta give », on ne peut pas tout avoir. Il faut aller chercher nos alliés qu'on a tenté d'aller chercher, mais qu'on n'a pas toujours réussi, ou qu'on n'a pas mis toute l'énergie nécessaire. Ça, c'est dans le mouvement syndical privé, mais comme je disais d'entrée de jeu dans notre conversation, le mouvement syndical dans le secteur privé, a beaucoup décliné, tant aux États-Unis, dans une moindre mesure au Canada, mais a décliné aussi au Canada. Donc, il ne faut pas se limiter à juste parler à nos confrères et consoeurs syndiqués dans le secteur privé, parce qu'il y en a tellement de syndiqués, puis de non-travailleurs, ou de travailleurs qui ne sont pas reconnus avec une job présentement. Il faut aller parler à tout ce monde-là pour voir comment on a des intérêts communs. Il faut se battre pour eux autres aussi. C'est pour ça que quand on se bat pour un régime de retraite public, c'est se battre pour tout le monde, pour monsieur et madame tout le monde, qu'ils aient un emploi ou pas, qu'ils soient une mère de famille ou au travail. On se bat pour tout le monde. Quand on se bat pour le changement climatique, on se bat pour tout le monde. On se bat pour nos jeunes, on se bat pour nos grands-mères, on se bat pour tout le monde. Il faut se battre pour tout le monde. Voilà 40 ans, au Québec, on disait « ouvrons un deuxième front ». Le premier front, il est au sur le milieu du travail. Je ne sais pas si vous avez vu un film du Manuel Folia, qui vient tout juste d'être produit. Il était à Télé-Québec ce mardi. Un homme mal commode, Chartrand. Il nous montrait les batailles des années 40, 50, 60, 70, dans les années 80 par la suite. Puis on nous montrait la force du mouvement syndical à l'époque, dont on entend tant parler aujourd'hui. Et moi, j'étais un petit jeune, je le voyais à l'époque. C'était parce qu'on ne parlait pas juste aux travailleurs, puis on ne se préoccupait pas juste des travailleurs et de nos membres. Bien sûr qu'on se préoccupait de nos membres. Mais on avait une préoccupation qui allait chercher d'autres personnes parce qu'elles étaient communes. Alors, la fiscalité, c'est tout le monde, ça. C'est les citoyens et c'est les citoyennes. Comme j'avais dit, des changements climatiques. Alors, je pourrais continuer longuement, mais il y a une limite à notre conversation. Je ne prétends pas justement non plus être un prophète. Alors, je me limiterai à ça pour vous dire, je pense que je suis bien content, puis j'aurais pu continuer un petit bout. Personne ne m'a montré la porte de sortie, tant mieux pour moi. Mais tant mieux si, plutôt que moi, d'être surpris, puis qu'on me dise, ça fait assez longtemps que j'ai pu surprendre un peu nos membres, puis dire, ben écoutez, c'est le temps pour vous de vous recharger la batterie en justement en décidant d'une nouvelle direction à prendre avec une nouvelle direction, littéralement, des nouveaux dirigeants, des nouvelles dirigeantes. C'est pour ça que j'offre très humblement ces commentaires-là, parce que notre congrès décidera effectivement si c'est une telle direction qui est à prendre ou une autre. J'aurai maintenant une opinion en tant que citoyen, mais je vais rester actif pour faire face à tous ces défis-là. Moi, je vais continuer à militer dans certaines organisations, notamment une qui s'appelle Alternative, où on s'occupe de changement climatique, où on s'occupe de fiscalité, les mêmes problèmes que comme syndicat, nous avons. Alors, pour moi, c'est bon signe si je vais m'occuper des mêmes problèmes dans une telle organisation que je m'occupais au nom et à la demande de nos membres syndiqués, c'est qu'il y a de l'avenir. Donc, on a des enjeux communs. Il faut donc y travailler de façon commune aussi, qu'on soit efficace et que ce soit des conditions gagnantes.
En tout cas, on ne se doute pas que tu vas continuer à être impliqué, mais peut-être tout simplement sous un autre, avec un autre chapeau.
Un autre chapeau, c'est ça.
Ou plusieurs autres. Ouais. Merci beaucoup.
Merci Pierre.
Bonne chance.
Ouais.